L'école, une serre où l'on apprend aussi la cruauté et la bêtise des autres. Citation d'Alice Parisot, née le 25 juillet 1930 à Cracovie et décédée le 30 septembre 1990, était une écrivaine, une journaliste et une criminologue québécoise d'origine polonaise. Tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 8 décembre 2023. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Notre thème du jour, harcèlement et phobie scolaire. Pour cela, nous recevons au studio Madame Laurence Champagne, présidente association phobie scolaire pour la Picardie, et nous aurons des interviews de Julie et Claire. Avant de commencer, nous allons demander à Laurence de se présenter.
Alors Laurence va rectifier.
Oui, justement, je ne suis pas présidente, c'est Odile Mandagaran, notre présidente nationale, et moi je suis correspondante régionale pour un certain nombre de départements, dont l'Oise.
Vous êtes présidente pour un jour.
Merci.
Voilà. Et donc, tu es aussi élue à l'échelon national, je crois.
Ah oui, alors, je suis depuis le début, c'est-à-dire mon arrivée dans l'association en 2014, membre du CA, du conseil d'administration. Et cette année, on a fait notre assemblée générale le 24 ou le 25 novembre. Et j'ai été élue co-secrétaire.
Voilà, au niveau de l'association nationale.
Voilà.
Sinon, toi, tu t'occupes que de la Picardie en
oui.
tant que correspondante régionale.
Ben, normalement, je m'occupais de la Picardie et de la Champagne-Ardenne.
Ah oui,
ancienne
d'accord.
région. Maintenant, j'ai Nathalie Collet qui s'occupe de la Marne et qui est en train de reprendre une petite partie de la Champagne-Ardenne, les Ardennes, peut-être l'Aube et je garde la Haute-Marne.
D'accord, très bien. Et donc, on a parmi nous Valentin qui va aussi se présenter.
Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Valentin, je suis salarié chez RVM depuis peu, depuis quelques mois maintenant. Et je suis un petit peu l'invité surprise de cette émission.
On aime bien, les invités surprises.
Bah,
qu'est-ce que tu fais sur RVM alors ? Ah, RVM, pardon.
Alors, je suis en charge des partenariats, de la communication avec les associations, les collectivités territoriales, etc. Et je gère aussi un petit peu le suivi des bénévoles, la coordination, faire en sorte que tout se passe bien quand on enregistre des émissions. Voilà, faut voir s'il y a des projets à venir, etc.
Donc on est surveillé aujourd'hui.
Non, pas du tout. Ah non. Alors non, je ne surveille pas.
Bon bah alors Sylvie, prends bien soin de nous présenter le thème du mois.
C'est ce que je vais faire. Alors en avril 2019, un pédago-rando intitulé « Harcèlement et violences scolaires » avait fait l'objet d'un débat avec nos invités. Déjà on parlait de sensibilisation auprès des jeunes, récurrent depuis de nombreuses années, ce thème est toujours d'actualité. Des programmes sont mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et pourtant rien n'y fait, les actes de harcèlement sont toujours en hausse. Gérard, petit mot d'humour ?
Oh, ça ne sera pas un petit mot d'humour, c'est
mais non.
Juste une petite remarque. Hein. Les moqueries sont souvent source de détente pour certains, qui ne pensent pas aux conséquences de leurs propos. Et ce manque d'empathie les empêche de se mettre à la place des autres pour savoir ce qu'ils ressentent. Petite question, à partir de quel âge doit-on commencer à en parler ?
Oui. Effectivement. Je pense que très tôt, c'est ce que veut faire d'ailleurs le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Alors une journée est consacrée à la lutte contre le harcèlement qui a lieu donc le 9 novembre. Il y a un numéro vert, non au harcèlement, qui est le 30-20 et le numéro vert net écoute 30-18. À l'occasion de cette journée, hein, différents projets voient le jour. Il existe le projet phare mis en place en 2021 pour lutter contre ce fléau. C'est un plan global de prévention et de traitement des situations de harcèlement. Les écoles et les collèges sont rentrés dans ce dispositif à la rentrée 2022, suivi des lycées depuis la rentrée 2023. Ainsi, on peut dire que 100% des écoles et établissements mettent en œuvre ce programme. Le prix du harcèlement organisé par le ministère de l'Éducation nationale avec le soutien de la mutuelle MAE va permettre de donner la parole aux jeunes qui entreprendront des actions en créant des supports de communication, soit par vidéo, soit par affiche. Ce prix est destiné aux écoles, collèges, lycées et même aux structures péri- et extrascolaires. Que pensez-vous de cette initiative ? Est-ce que quelqu'un connaissait ces initiatives ? Non, personne ? Alors, il faut savoir qu'on a eu deux lauréats au niveau académique, le lycée UKP Senlis pour sa vidéo « Harcèlement » et le collège Jacques Prévert-Chambly, prix spécial « Prévention du cyberharcèlement ». Alors, c'est simple, hein, vous marquez PHARE, P-H-A-R-E, sur Internet, et vous arrivez, en fin de compte, à aller voir ces quelques vidéos faites par des collégiens, des lycéens. C'est très intéressant et c'est vraiment un très, très, un travail très lourd.
Répète, Sylvie, ça t'a dit ?
P-H-A-R-E. Voilà. Donc, je pousse vraiment tout le monde à aller voir ce que font les élèves. Voilà, donc là, on va passer à la première interview. Donc là, je fais signe à Jackie pour qu'il prépare. Donc, c'est une élève en lycée privé qui nous explique les supports mis en place pour cette journée de lutte contre le harcèlement. Elle s'appelle Julie.
Donc, la journée du harcèlement a lieu chaque année le 9 novembre. Est-ce que ton lycée a fait quelque chose pour rappeler un petit peu aux lycéens qu'est-ce que le harcèlement ? Est-ce que vous avez eu des cours là-dessus ou pas du tout ?
Alors non, pas du tout. On a eu vraiment seulement des affiches collées sur quelques murs au lycée, à l'entrée du lycée aussi, mais rien d'autre, pas de cours par le professeur principal, rien d'autre.
D'accord, pas de conférence, pas de vidéo, rien du tout.
Non.
Donc ces affiches qui étaient mises à l'extérieur du lycée, certainement sur les grilles du lycée, étaient visibles par tous les passants. Voilà, par tout le monde, par les parents, etc. Est-ce que les élèves, les lycéens, s'arrêtaient devant ces affiches pour les lire ? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui s'arrêtaient pour en prendre acte ? Pas du tout ?
Alors vraiment pas du tout. Et d'autant plus que ces affiches comprenaient des fautes d'orthographe, certaines. Voilà, des fautes de frappe. Alors, ça rajoutait de la couleur, mais les messages n'étaient pas, on va dire, pertinents. C'était « vous êtes tous beaux ou belles, le harcèlement est une fatalité », des choses vraiment très banales, sans vraiment fonctionnalité.
Oui, c'était vraiment des mots flash pour attirer plus ou moins l'attention. Donc Claire, la maman...
Voilà, donc on coupe un petit peu parce que sinon ça va être très long. Donc la maman Claire a exactement la même opinion. Je pense que Julie s'est trompée parce qu'à un moment donné, elle parle « le harcèlement est une fatalité ». En réalité, c'est « le harcèlement n'est pas une fatalité » sur les affiches. Par contre, les lycéens plus matures, c'est ce que disait Claire, donc la maman, savent où se renseigner et vont venir plus facilement en aide à la personne harcelée. Moi, avant de commencer à parler de ça, je me tourne donc vers Laurence. Pour ton association, le point principal est l'aide aux parents. Quelles sont les autres actions que vous menez, que vous avez à votre actif ? On a changé l'ordre, non ? Oui, parce que j'envoie un conducteur en réalité pour permettre aux invités de répondre à mes vilaines questions. Voilà.
Eh bien, on a des contacts avec... on travaille avec plusieurs professionnels, notamment des pédopsychiatres comme Olivier Revol, Hélène Denis... Et aussi des gens qui ne sont pas forcément des pédopsychiatres, mais qui sont sensibles à notre cause, comme Jean-François Laurent, Alexandre Ployer. Ça y est, j'ai retrouvé. On travaille aussi avec Leïla Benoît, qui travaille à la Maison de Solène. Qui a mené avec nous la première recherche française majeure sur le thème de la phobie scolaire. Nos adhérents étaient sollicités, notamment les jeunes et leurs parents, pour témoigner. Il y avait tout un questionnaire, etc. Et c'est intéressant de parler de cette étude parce qu'elle a mis en exergue qu'il y avait du harcèlement dans la grande majorité des cas de phobie scolaire.
De phobie scolaire, alors, oui, c'est souvent ça. Oui, c'est lié.
Oui, voilà. Réalité. Est-ce la cause ou est-ce... la conséquence, moi je suis partagée, je pense qu'on l'est tous, parce que parfois dans la même situation, vous avez des enfants pour lesquels ça va devenir un harcèlement et d'autres qui vont
qui ça vont va passer outre, voilà, c'est ça. Je pense que réagir, la personnalité de l'enfant joue effectivement énormément. Il y a un problème aussi avec peut-être la notion de harcèlement. Est-ce que tu peux nous définir le harcèlement? Parce que souvent, ce sont des notions qui sont un petit peu extrapolées ou minimisées par certaines personnes. Quel est le juste milieu, en fin de compte?
Oui, justement, tout à l'heure, on parlait de moquerie ou de blague. Normalement, le harcèlement, la notion de harcèlement, pas forcément scolaire, mais harcèlement...
En général.
Général, oui. Merci. C'est de toute façon la répétitivité de la
des actions, voilà, répéter ça.
Donc, une moquerie répétée, un geste, c'est pas forcément... Parce que je pense que le commun des mortels pense que pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait une véritable violence, même des coups. Mais pas seulement.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit toujours, la violence physique, c'est facile à voir, que la violence morale, c'est à l'intérieur que ça se passe de la personne. Donc c'est beaucoup plus compliqué, je pense.
Oui.
Mais le harcèlement, c'est fait par la victime, pas par celui qui prononce les mots, parce qu'il ne s'en rend pas compte. Moi, je vois, je vois dans les collèges, c'est terrible. Et la personne, quand elle se replie sur elle-même, puis les autres en profitent, parce que... Peut-être que certains des élèves seraient là pour protéger la personne qu'on est en train de critiquer, mais par peur, ils se mettent parmi ceux qui critiquent pour surtout ne pas être après sujet, eux, à une raillerie. Donc ça fait un phénomène de groupe énorme.
Voilà, ça fait trois. Harceleurs, harcelés et les témoins.
Ah ben bien sûr.
Voilà, c'est un trio.
Souvent, le harceleur est quelqu'un qui est en souffrance.
Tout à fait.
Qui peut-être même a été harcelé lui-même et essaye d'être une sorte de chef de bande. Et les témoins, comme vous dites, comptent parce qu'ils peuvent se transformer eux-mêmes en harceleurs, souvent pour...
Souvent par peur de celui qui mène. Oui.
Voilà. Pour ne pas être on s'entoure victime.
C'est vrai, on va toujours vers le plus fort, en général. C'est l'être humain qui est comme ça. Alors, cette année, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de remettre une enquête aux classes de primaire, CE2, CM1, CM2, au collège et au lycée. Cette grille d'auto-évaluation en QCM, c'est un questionnaire à choix multiples qui va donc permettre de garder l'anonymat des jeunes puisqu'ils vont répondre par des croix. Un éclaircissement sur le terme « harcèlement » a été fourni aux élèves ou pas. Ça dépend des professeurs. Soit ils ont pris un support comme une vidéo ou un diaporama pour en parler avant. Je vous ai fait parvenir à tous les trois enquêtes. Que pensez-vous des questions posées? Alors, il y avait une enquête élémentaire, une enquête collège et une enquête lycée qui se ressemblaient, qui étaient presque du mot à mot les mêmes. Et au niveau des collèges et lycéens, il y a deux petites questions qui ont changé. Voilà, sinon c'était exactement la même chose, ce qui est peut-être un petit peu dommage. Gérard, vas-y, à toi.
Au collège, moi j'ai essayé d'avoir des interviews, donc obligé de passer évidemment par les directeurs et directrices des collèges pour savoir si je pouvais interviewer des élèves sur ce sujet ou même un professeur, et c'est la porte fermée.
Oui, tout à fait.
On sent que les établissements ne veulent pas en parler, alors peut-être de peur que certains élèves en direct, disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Enfin voilà, moi, je n'ai pas pu avoir de contact.
De renseignement.
Non.
Jackie, à ton tour.
Oui, ce document, c'est une bonne chose. Enfin, ça peut être une bonne chose, mais à condition que tout le monde le prenne en compte. Et ce n'est pas toujours l'occasion au niveau de l'éducation, du ressenti en bas dans l'éducation nationale, que ce document soit vraiment bien pris en compte au niveau de la distribution et du suivi de ce document.
Donc, déjà, il faut savoir que les établissements privés, parce que moi j'ai essayé de téléphoner un petit peu aux gens que je connaissais, que je côtoie, et dans les établissements privés, tels que les lycées, ça n'a pas été distribué. Donc à croire que dans les établissements privés, il n'y a pas de harcèlement. Voilà. Donc, alors moi j'ai fait un petit tour d'horizon. Alors il faut savoir que les enfants et les ados n'ont pas forcément parlé de ce QCM à leurs parents. Chose étrange, hein, ça ne les a pas plus motivés que ça. Les parents interrogés restent mitigés sur cette enquête et se demandent si les enfants de CE2 ont bien compris le mot harcèlement. Certains enfants ont été gênés par deux questions en CE2. Est-ce qu'un plus... Alors, est-ce qu'un ou plusieurs élèves ont essayé de te retirer tes habits ? Ça, ça les a un peu choqués. Est-ce qu'un ou plusieurs élèves ont essayé de toucher des parties de ton corps ou de t'embrasser sans que tu dises oui ? Là, les CE2, c'est ce que me racontaient les parents, ces questions, ils ne savaient pas quoi trop répondre. Les professeurs se sont appuyés, comme je le disais tout à l'heure, sur des vidéos ou des dessins pour illustrer et expliquer la violence. Hein. Et des élèves de primaire sont contents d'avoir des cours de... Certains élèves en primaire sont contents d'avoir des cours de morale pour comprendre leurs émotions et de savoir que le respect est nécessaire pour le bien vivre ensemble. Une maman m'a affirmé que ces cours de morale libéraient la parole des enfants. Il faut savoir aussi ce qu'on m'a dit. Certains établissements de primaire ont modifié le formulaire, trouvant celui-ci trop négatif. Alors les collégiens, ils ont répondu aux questions sans plus d'intérêt. Et par contre, pour certains lycéens, des débats sont intervenus après avoir rempli le questionnaire. Donc là, je pense qu'effectivement, que les questions peut-être auraient dû aller peut-être un petit peu plus loin. Parce que pour les lycéens, je trouve que les questions étaient un petit peu trop simples. Alors, il faut savoir qu'il n'existe aucune formation pour les professeurs sur le harcèlement, la violence, la phobie scolaire. La gestion de la crise passera par les services administratifs, le proviseur, le principal. Et alors, un petit truc, malheureusement, le Sénat a adopté plusieurs amendements qui prévoient notamment la réduction de 700 millions d'euros, j'espère que je ne me trompe pas, du budget sur la formation des enseignants. Donc, ce n'est pas demain qu'ils vont être formés. Alors, pour les parents, c'est compliqué. Hein. Pour les parents, ce sont aux professeurs de régler les problèmes récurrents sur les violences et les méchancetés. Certains parents veulent plus d'autorité et d'éducation au sein des familles, parce que certains trouvent que les parents ne font pas leur travail. Et pour les professeurs, le lien avec les parents reste l'une des mesures indispensables pour remédier efficacement à une prise en charge, une coéducation qui pourrait partager les responsabilités des parents et du corps enseignant. Voilà, donc en gros, j'ai eu une professeure qui a bien répondu à mes questions sur le terrain. Donc cette professeure de primaire mentionne la vigilance en cours de récréation pour intervenir rapidement. Elle préfère une récréation à deux classes, voire même des fois, elle part en récréation seule pour avoir voir exactement ce qui se passe. La surveillance en classe des moqueries proférées doivent être sur le champ interrompues. Elle interrompt toujours les élèves dans ce cas-là et elle leur fait un peu la morale. Les problèmes se concentrent aussi durant le temps à la cantine où les professeurs ne sont pas présents et ne peuvent pas gérer les conflits. Dans ce cas-là, elle demande à ce que les enfants se tournent vers les adultes présents qui, effectivement, ne sont pas non plus formés pour ce genre de violence ou de harcèlement. Et elle s'inquiète de la non-présence de certains parents dans le suivi de la scolarité des enfants. Voilà ce qu'on peut dire en gros.
Oui, mais on va revenir à une émission qu'on avait. Il ne faut pas confondre enseignement et éducation. Ça n'a rien à voir. L'éducation, c'est à la maison et l'enseignement, c'est à l'école. Donc,
Parce qu'il y a le suivi et le déni des parents. Parce que là, j'ai eu l'occasion de parler cette semaine avec une prof dans les activités que l'on fait. Y a un élève qui pose problème, mais le parent, lui, non. Donc comment on peut arriver à joindre les deux personnes, à un dialogue entre les deux personnes, aussi bien enfin, les profs, l'administration et le parent qui dit « moi, il n'y a rien ».
Alors justement, pour les parents, donc, comme on disait, donc, c'est aux professeurs de gérer les problèmes de violence, etc. Comment faire pour ces deux mondes se côtoient, comme le disait Jackie à l'instant? Souvent, on voit les parents qui se tournent vers les associations comme la tienne, Laurence. Quand il y a un désaccord comme ça qui subsiste avec l'administration, comment vous intervenez, en fin de compte, vous, de votre côté, pour établir un contact entre les deux ?
Ben, c'est compliqué. On est beaucoup dans l'écoute des parents, mais on essaye de faire en sorte que le dialogue soit pas rompu, parce que... On essaye de faire même un trio, alors parce que la phobie scolaire, on n'a pas parlé de... Enfin si, moi j'ai parlé des pédopsychiatres et des psychologues. Ce qu'on essaye d'encourager, c'est le triangle famille, éducation nationale, prise en charge médicale ou paramédicale. Mm-hmm. Donc, mais ce n'est pas toujours évident. Parfois, ça va jusqu'à l'IA, là.
Inspection clinique.
Oui, non, mais une...
Ah, l'académique, l'inspection académique.
Non, une assistante sociale.
Ah
qui
oui,
vient,
d'accord.
Là,
okay.
Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ah ben, je pourrais pas t'aider. Désolée.
C'est quand il y a une alerte qui est donnée, et puis ça peut aller jusqu'à ce qu'on enlève les enfants aux parents et qu'ils soient placés dans des familles. Là, parce qu'ils ne se rendent pas à l'école. Bon, là, on déborde un peu du harcèlement,
sujet,
mais c'est le sujet phobie scolaire.
Valentin, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça suite à ce que tu as entendu, les divers commentaires ?
Alors moi, c'est... Comment ? Ça tombe bien parce que j'ai travaillé en lycée pendant 2 ans en tant qu'assistant d'éducation, donc en vie scolaire. Et alors, c'était en lycée. Donc déjà, je pense que la parole en lycée est quand même un peu plus facile à obtenir. On était en plus dans un petit lycée comment, où il n'y a vraiment pas de problème majeur. C'est un lycée très calme, etc. Et dans lequel on avait réussi, avec l'équipe d'assistants d'éducation, les années où j'étais là, à vraiment favoriser un lien avec les élèves d'écoute. J'estime qu'on était quand même assez... assez vigilant à ce qui pouvait se passer. Mais malheureusement, il y a aussi des fois où on passe à côté de certaines choses, parce qu'on ne peut pas être tout le temps l'œil sur tout le monde. Et puis, il y a, comme vous l'avez dit, je ne sais plus qui l'a dit autour de la table, mais des caractères qui se prêtent plus ou moins à aller vers l'adulte, ou en tout cas vers une personne qui est peut-être en mesure d'aider. Voilà, cet effort-là d'aller vers l'autre pour chercher une solution est parfois un petit peu difficile à engager. Donc, il y a des choses auxquelles il y a des événements qui parfois sont loupés, que ce soit par les équipes de vie scolaire, mais parfois même en classe aussi par les professeurs, on le sait, parce qu'on travaillait quand même beaucoup avec les professeurs. Et c'est là que, je suis pas sûr qu'écrire, que de proposer un petit manuel à tous les élèves pour dire, est-ce que toi ça va bien, qu'est-ce qui s'est passé cette année, favoriser la parole par l'écrit, par faire une espèce de grosse enquête comme ça, je suis pas sûr que ce soit, que ça aide ça aide la cause à faire en sorte que le harcèlement cesse. Pour moi, c'est forcément, ça passe forcément par un dialogue. Comme on l'a dit, comme l'a dit Gérard, on est là pour faire de l'enseignement et pas de l'éducation. Mais je comprends bien le problème qu'a l'institutrice que Sylvie, avec laquelle tu as pu dialoguer, qui dit que parfois avec les parents, on comprend pas quoi. Il y a un mur. Il faut réussir à trouver des idées pour s'en sortir et pour essayer de favoriser cet échange et en tout cas de favoriser une compréhension, de dire non mais il y a un signal d'alerte à l'école, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'à la maison vous déjà le compreniez et ensuite pouvoir travailler dessus.
Alors c'est vrai que le QCM, les enfants n'ont pas pu réellement dire ce qu'ils ressentaient, puisque c'était des petites croix à mettre, Et tu as déjà géré un problème comme ça de harcèlement ou de violence, sachant qu'effectivement, dans les établissements scolaires, la problématique, il n'y a pratiquement plus d'infirmières, plus de médecins, des psychologues scolaires, on appelle plus ça des psychologues scolaires, je vais me faire taper sur les doigts, mais voilà, il n'y a pas de possibilité de gérer un problème à l'instantané, quoi.
C'est extrêmement compliqué. On n'est évidemment pas plus formés que les profs, pour dire pas du tout. Les infirmières, en effet, on en manque. Les PsyEN, nous, on disait PsyEN, je ne sais pas si c'est le terme officiel ou non, les psy de l'éducation nationale, mais ils ou elles sont là... de maximum
à se mutualiser.
Mais oui, c'est ça, elle travaille sur plusieurs établissements, mais de la même manière que beaucoup d'infirmiers et d'infirmières scolaires. Souvent, les équipes de vie scolaire se retrouvent à gérer des situations auxquelles elles ne sont pas formées, auxquelles elles ne sont pas prêtes. Donc, on fait un petit peu comme on peut. Mmh. En termes, on a dû gérer des problèmes de harcèlement, mais comme je l'ai dit, on arrivait à...
C'est un lycée, donc ils sont plus
matures.
C'est un
lycée, et c'est vrai qu'on avait quand même certaines alertes qui étaient faciles à choper.
Quel genre d'alerte ?
Déjà des camarades de classe qui venaient nous voir, qui nous disaient « là, il y a un problème. Là, il s'est passé un truc. » et puis même nous, parfois, voilà, on reçoit un élève voilà, qui s'est fait... un élève, comment on va dire, très
en
lambda.
En difficulté scolaire, peut-être. Non, pas forcément.
Même pas. Alors, ça peut arriver, mais même parfois un élève dont on n'a jamais entendu parler, qui fait absolument pas d'histoire, qui vit sa scolarité de son côté sans l'aide d'adulte ou quoi que ce soit, sans l'aide d'un soutien particulier, qui d'un coup va se retrouver à se recevoir des remarques de la part de son professeur, avoir des heures de colle, des inrendus au niveau des exercices, parfois même jusqu'à se faire sortir de cours, se faire exclure de la classe. Là, il faut se poser une question.
Oui, c'est un signe d'alerte, ça.
Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il y a un problème à la maison? Ça, c'est possible. Et ça, dans ce cas-là, c'est... nous, on fait remonter, évidemment, aux conseillers principaux d'éducation, qui ensuite voient avec les directions, puis souvent les professeurs principaux, quand même, pour en parler entre eux. Mais c'est à nous aussi de voir, peut-être qu'il y a un problème en classe. Et dans ce cas-là, c'est... même si c'est pas facile, parce qu'on n'est pas enquêteur, hein, on n'est pas là pour...
attention, il y a la vie privée aussi
aussi.
On ne peut pas aller trop loin non plus.
Donc c'est cet équilibre qui a chopé, en tout cas à respecter, de dire, ok, s'il y a un problème, d'aller voir l'élève en question, d'essayer, dans tout cas, montrer qu'on est à l'écoute, on est là s'il y a un problème, mais évidemment, on ne peut pas dire, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui t'embête? Enfin, donne-nous des noms. Enfin, c'est impossible de faire ça. Et non. C'est de toute façon une méthode absolument... pas efficace pour pas dire qui aggrave les choses, qui aggrave les choses, pardon.
Mais ce qui est terrible dans les classes, c'est le regard des autres. Moi, quand je vais dans les collèges et puis que j'interroge des élèves, des fois j'ai le mutisme sur la question parce que je vois que la personne ne veut pas répondre. L'enfant, il regarde à gauche, à droite, il regarde qui va la regarder pour la réponse et il se tait. Il ne dit rien.
Il y a une peur qui s'installe en fin de compte.
C'est la peur du regard des autres. C'est terrible.
Mais parce qu'il ne faut pas faire ça en grand comité. C'est impossible d'aller voir je ne sais pas, je ne me serais pas vu rentrer dans une classe, même d'un commun accord avec le ou la professeure, et dire « Ok, on sait qu'il se passe quelque chose, il y a des problèmes, allez-y, qu'est-ce qui se passe ?» C'est impossible de faire ça, pas devant 30 voire 35 élèves. Non, il faut prendre les élèves au cas par cas. Mais c'est un travail colossal.
Ou faire une conférence. Une conférence, c'est une personne qui arrive, qui est anonyme, qui ne fait pas partie de l'établissement. Ça peut passer peut-être mieux, en fin de compte, au niveau des jeunes.
Oui, mais ça reste malheureusement à un moment où les jeunes sont nombreux et donc forcément le regard de l'autre va peser. Et parfois, prendre les jeunes à part avec un ou... peut-être par groupe de 3-4, des lycéens, enfin des élèves qui se connaissent, pour en parler, je pense que faire des petits groupes, c'est quand même beaucoup plus facile.
C'est très compliqué.
Et puis que tout le monde ait le temps aussi et la place pour parler de soi et pour parler de son expérience.
Mais il y a l'écoute aussi qui manque, on va en reparler. Là, j'aurais voulu qu'on écoute une autre interview où je pose la question à Claire. Comment expliquer à Julie le cyberharcèlement? Si ça passe, c'est bon.
Pas compte, effectivement, ils sont longtemps sur les réseaux sociaux, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent subir ou faire subir aux autres du harcèlement. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Claire?
Alors moi, personnellement, pendant longtemps, les réseaux sociaux ont été surveillés par moi-même. Donc, je zioutais un petit peu tout ce qui se disait entre les copains et les copines sur n'importe lequel où elle était inscrite.
Est-ce qu'il te semblait de voir qu'il y avait de la malveillance ou pas du tout?
Alors, des fois, j'ai estimé que c'était pas forcément correct. Donc, on en discutait. Des fois, je me fâchais aussi. Parce que j'estimais que ça se disait pas, qu'il fallait aller voir. S'il y avait un problème, il valait mieux aller voir la personne en face et puis lui dire, plutôt que d'aller raconter à Pierre-Paul Jacques ce qui s'était passé et puis faire en sorte que la personne soit mise de côté. Donc, voilà. Après, il y avait aussi le harcèlement de sa part, pour elle en tous les cas, où justement, on faisait attention à ce que ce qui se disait sur les réseaux sociaux ne soit pas contre elle tout le temps. Et, voilà. Mais pour moi, la meilleure des choses, c'est quand même de discuter avec la personne concernée, c'est-à-dire harceleur, harcelé, et pour éviter les choses. Je pense que
en seconde, et même là, il y a des personnes avec qui Julie ne s'entend pas forcément et où ça aurait pu tourner en harcèlement. Mais je lui ai dit, soit tu vas la voir directement et tu lui dis ce que tu penses, soit vous vous ignorez complètement. Mais à aucun moment, vous n'avez à vous juger par derrière.
Oui, donc ce que tu es en train de dire, en fin de compte, Claire, c'est qu'il y a une éducation qui doit être faite aussi à la maison. Mais pour certains parents, c'est plus compliqué parce que comment communiquer avec des ados qui veulent être et qui deviennent de plus en plus autonomes avec leurs propres idées sur des sujets de bonne conduite, de savoir-faire. Je pense que ça se fait dès l'enfance, en fin de compte.
Peut-être. Oui, de toute façon, c'est tout petit, on leur parle. On leur parle de tous les sujets, on leur demande déjà ce qui s'est passé à l'école et de savoir si l'enfant est fautif ou si c'est lui qui a été, qui est vraiment abusé par une autre personne. Mais en tous les cas, c'est tous les soirs, on parle de ce qui se passait à l'école et puis il y avait des moments où j'estimais que c'était elle qui était en tort et puis d'autres où...
Voilà. Hop, je reprends mon micro. La surveillance des parents est primordiale pour encadrer les jeunes de ces nouvelles technologies. Parfois, c'est vrai, vaut mieux gérer, comme le disait Claire, les problèmes déjà entre jeunes afin de faire intervenir les adultes. Voilà. Et donc, elle disait aussi après, par la suite, arrivés au lycée, les jeunes sont plus matures. C'est plus facile pour eux d'aller à droite, à gauche, pour demander de l'aide, etc. Ils peuvent aussi intervenir entre eux. Bon, ça, on le verra peut-être un peu plus tard parce que je vois que ça tourne. Alors, nous connaissons déjà les chiffres du harcèlement. Selon une enquête de l'IFOP pour l'association Marion, la main tendue, près d'un élève sur cinq aurait subi ce type de violence. Pour l'éducation nationale, il s'agirait d'un élève sur 10. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres. Qu'en est-il pour les chiffres de la phobie scolaire? Nous n'avons aucune statistique de l'éducation nationale. C'est très gênant ça. Et les deux sont-ils liés en fin de compte, phobie scolaire et harcèlement? On en a parlé déjà tout à l'heure. Est-ce que toi tu as des chiffres au niveau des stats phobie?
On a des chiffres grâce à, notamment à Hélène Denis qui a fait cette grande étude. Et donc il en ressort que 3 à 5% de jeunes souffrent de troubles anxieux scolaires sévères. Et 8 à 30% de jeunes souffrent de troubles anxieux. Selon Hélène Denis, on avait aussi des chiffres qui nous venaient des États-Unis qui disent que plusieurs plus de 5% de gens ont connu la phobie scolaire à un moment donné de leur vie. Sans en être forcément, peut-être. Parce que parfois, ça ne va pas. En fait, nous, on se rend compte de la phobie scolaire quand on ne peut plus du tout y aller. Quoi. Voilà.
Point extrême.
On ne peut plus franchir le portail de l'établissement scolaire. Mais parfois, surtout les filles, elles prennent sur elles et en fait.
On a plus de caractère.
et donc, elles y vont tous les matins, mais.
Ces statistiques sont toujours en hausse au niveau de la phobie scolaire, un peu comme le harcèlement, ou pas du tout, ça stagne?
Il y a eu un pic pendant la
COVID,
crise sanitaire.
La crise sanitaire,
parce que justement, les enfants se sont retrouvés chez eux et ils se sont rendus compte que c'était mieux. Parce que, si on n'a pas de statistiques, je pense, de l'éducation nationale, c'est parce que l'éducation nationale, quand il y a scolaire dedans, phobie scolaire, harcèlement scolaire, ils ont l'impression que ça veut dire que c'est de leur faute. Mm-hmm. Et c'est compliqué, quoi.
D'accord.
Nous, on essaye d'avoir l'agrément éducation nationale et on n'y arrive pas. Ça fait plusieurs années, on a rempli toutes sortes de dossiers.
Mais tu travailles quand même avec l'éducation nationale, puisque tu vas dans des écoles, non?
Oui, mais voilà. apparemment, l'agrément que des clubs de karaté, tout ça, arrivent à avoir, et ben nous...
C'est pas la même chose.
Voilà.
Luc, intermède.
Peut petite Émilie, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'on sorcelle, pour toute sa mère, elle en était la prunelle. Ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie. Car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie, à 12 ans maintenant. Adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant. C'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée. Tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffre-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux ils l'appelaient la dégueulasse. Des photos d'elle tournées aux enfants qui les passent, ne sachant pas comment faire ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades tous ensemble l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix.
Notre thème du jour, harcèlement et phobie scolaire. Pour cela, nous recevons Marie-Laurence Champagne, qui n'est pas présidente mais qui y est pour un jour, association phobie scolaire pour la Picardie, et nous avons aussi les interviews de Julie et Claire. Un petit billet d'humeur de Jackie.
Oui, alors... Le harcèlement scolaire, c'est pas nouveau. Non. Le harcèlement scolaire a été mis à jour dans les années 70, donc par un psychologue nordique qui a mis ça en place, enfin qui a repéré ça et qui a continué sur ce projet, sur cette démarche et qui a fait toute une démarche philosophique dans les années 90-93. Donc ça prouve que... Mais là, le problème de l'harcèlement scolaire, même si on l'a connu pendant toute une décennie, toute une période, c'est que c'est à partir de ces années-là, de nos années, le harcèlement scolaire, il a vraiment connu une explosion, et une explosion notamment dans les nouvelles technologies. Enfin, c'est dû à tous ces malheureux... L'apport de ces outils-là, donc les réseaux sociaux, les portables, enfin tous ces outils, que là on voit exploser le harcèlement scolaire. Parce que ces outils-là, les jeunes sont capables de les utiliser, voient vraiment un outil de propagation du harcèlement, principalement. Et là on voit que le dernier sondage, on voit que le harcèlement scolaire a explosé en 2022 de l'ordre de 69%.
Ah, quand même.
Donc là c'est quand même une grosse problématique au niveau du harcèlement scolaire. Et je crois qu'il y a non seulement avec les documents qui viennent d'être passés, mais je crois qu'il y a vraiment une démarche nationale et une démarche à tous les endroits de faire, pas qu'au niveau scolaire. Ça serait peut-être ça à faire en place.
Tout à fait. On va continuer. Donc, on en était où? Alors, je voudrais qu'on écoute Isabelle Filosia. Luc, tu as pu le faire l'enregistrement? Ah, super.
Ne reste pas seul. Trouve une personne de confiance pour te confier. Harceler, ça te permet peut-être de te sentir fort, mais tu sais que c'est pour camoufler combien tu ne te sens pas toujours fort à l'intérieur. Peut-être dans ta famille ou à l'école. Tu es peut-être aussi pris dans un engrenage. Et harceler te permet d'être populaire. Être le plus fort te valorise. Les autres t'admirent, te craignent. Tu crois appartenir au camp des bons en excluant un enfant. Je sais que notre société n'écoute pas encore beaucoup les enfants comme toi qui ont des soucis dans leur cœur et ne trouvent pas d'autre façon de se sentir appartenir à un groupe et de développer une bonne image de soi. Mais continue de chercher une personne de confiance, car en réalité, chaque fois que tu blesses un autre enfant, même si tu te dis que c'est pour rire, tu diminues ton estime de toi-même. Le harcèlement doit cesser.
Voilà, alors donc ça, c'est Isabelle Filiosa, qui est auteure, psychothérapeute et conférencière. Elle informe sur les besoins des enfants, comme de ceux des parents et des professionnels de l'enfance. Sur cet extrait, donc, on voit, elle développe sa réflexion sur l'enfant harceleur. Alors, elle écrit beaucoup de livres sur les émotions. Tu me disais pendant l'intermède, Laurence, que tu voulais me parler de certains livres que vous avez fait au niveau de l'association Phobie scolaire.
Oui, tout à fait. On en a fait principalement deux. Nous, personnellement, on en a fait deux. Un qui traite de la phobie scolaire en général, c'est-à-dire, ça s'appelle « École, quand la phobie prend le dessus », avec des témoignages, beaucoup de témoignages, et aussi des pistes, parce qu'on n'a pas la solution. Chaque cas est différent, et donc chacun doit trouver sa solution. Et le deuxième livre, c'était en collaboration avec une association spécialisée dans le harcèlement qui s'appelait Génération, je crois. Et le livre s'appelle « Harcèlement scolaire, de la destruction à la reconstruction ». Ils sont tous les deux disponibles sur tout... chez toutes les librairies.
D'accord. Et donc, dans ces livres, on retrouve des informations, je suppose, mais aussi, est-ce qu'il y a peut-être des choses à faire, notamment pour contre le harcèlement, la phobie scolaire tu as eu le temps de les lire, toi, ces livres-là?
Oui,
tu les as lus, ouais. Et alors?
Je les ai relus.
Relus et relus. Est-ce qu'il y a quelques pratiques, des petites choses pratiques pour éviter ou pour prévenir les enfants aussi, peut-être?
Eh ben, j'ai eu des discussions aussi personnelles avec Hélène Denis, qui, elle, considère qu'il faut prendre en charge surtout le harcelé et l'aider à avoir la bonne réaction.
Qui est
Hélène Denis, c'est une pédopsychiatre. Ah, elle travaille dans le sud de la France, je crois, à Toulouse ou Montpellier.
Oui, parce que j'ai vu que sur votre site, on retrouve beaucoup de renseignements et de ressources pour les parents, hein, mais aussi pour les personnels médicaux et professionnels. Il y a beaucoup de... toute une liste de médecins, en fin de compte, de professionnels, mais aussi il y a une feuille de route qui permet aux parents d'accéder rapidement à une prise en charge. Mais qu'est-ce qu'elle propose exactement, cette feuille de route? J'ai pas tout lu parce que j'ai pas eu le temps. Alors, donc voilà.
La feuille de route, c'est notamment contacter le médecin traitant, faire établir un certificat médical pour pas se retrouver avec une information préoccupante. Mm-hmm. Juste déjà pour commencer, une incompréhension avec le milieu
scolaire,
tout à fait. Et donc, ensuite, si violence verbale, décrire l'état psychologique de votre enfant. Si violence verbale et physique, faire constater les lésions physiques et décrire autant que possible la dégradation de son état. Ce constat doit mentionner s'il y a lieu les jours d'ITT. On dit, donc là, dans la feuille de route, c'est indiqué mettre en arrêt l'enfant pour plusieurs jours. Cela lui permet de se sentir immédiatement en sécurité et dans un milieu bienveillant. Mais parfois, en fait, on décrit la phobie scolaire comme un genre de burn-out. On n'imaginerait pas de continuer à faire travailler quelqu'un qui est en burn-out, mais par contre, les enfants qui sont en phobie scolaire...
Moi, je peux en parler, puisque ça a été le cas de ma fille. La dépression infantile, on commence peut-être à en parler seulement maintenant. Ma fille a 36 ans, hein, mais elle a fait une dépression infantile à l'âge de 9 ans. Et à l'époque, ce n'était pas connu du tout, du tout. Et je pense qu'effectivement, on parle beaucoup du milieu professionnel et on pense que les enfants qui savent hein, cacher un peu leurs émotions beaucoup plus que nous, eh bien, ils font des dépressions. Et ça, il faut le dire aux parents. Oui, la dépression infantile existe chez les enfants. Mais à quoi reconnaît-on ? Quels sont les symptômes qui, au niveau de la phobie scolaire ? Je pense que l'enfant est beaucoup plus taciturne, qu'il ne rigole plus, qu'il ne parle plus. Il se renferme sur lui-même. Mais ça, les parents se disent, oh, ben, c'est peut-être parce qu'il est fatigué. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez aux parents ? Comment vous leur dites, ben voilà, ça, c'est vraiment une phobie scolaire ? Le recul de ne pas vouloir aller à l'école, mais il y a peut-être d'autres symptômes.
Oui, justement.
Des vomissements, peut-être aussi.
Ça peut être toutes sortes de choses. Et parfois, comme tu disais, il y a des masques. Et on ne peut pas... même l'enfant lui-même ne se rend pas compte de ce qui lui arrive.
Mais ça se remarque en classe. Hein.
Ah oui.
En classe.
Ah oui, oui, oui.
Par les notes, par sa façon d'être ou...
Moi, j'y suis pas souvent. Je pense
ouais, et alors, ouais.
Uh-huh. Nous, on les reconnaît. Ah. On sent tout de suite les enfants qui sont pas bien du tout. Mm-hmm. Rien qu'à leur comportement, comment ils se contiennent, comment ils regardent tout à gauche, à droite et tout, toujours en train de...
Et dans ce cas-là, les professeurs...
Les professeurs, moi et puis ma collègue, on arrive à les distinguer. Je pense que leur professeur, il est bien devant. Donc, mais est-ce qu'il va oser en parler ? Ça, c'est autre chose.
C'est compliqué hein, de les faire parler. Quels sont les enfants ou les ados qui sont pris pour cible par leurs camarades, souvent ? Alors, on dit souvent que ce sont les enfants qui sont en difficulté scolaire ou qui ont un handicap. Les enfants roux aussi, souvent, hein,
et ben,
aussi
moi,
on se moque.
Je résume tout ça par les enfants qui sont différents.
Différents.
Et c'est pour ça que nous, on a énormément dans notre association d'enfants précoces ou alors autistes. Il y a beaucoup de 10.
De 10.
Le handicap, il fait beaucoup. Dans les derniers sondages, le handicap, c'est quand même un gros pourcentage.
Oui, ils sont vraiment pris pour cible, hein, c'est vrai. Hein. Alors, pour la prochaine rentrée scolaire, on va parler un petit peu de notre ministre Gabriel Attal qui a annoncé des cours d'empathie dans toutes nos écoles. Des cours sur le respect de soi et de l'autre. Et dès janvier, une école pilote par département ajoutera des cours d'empathie, de respect à l'autre et de tolérance. Ces cours d'empathie sont déjà instruits en Finlande et au Danemark où les chiffres du harcèlement sont en baisse. Qu'en pensez-vous ? Est-ce suffisant pour améliorer l'environnement scolaire ? Je vois des têtes qui font non, d'autres qui réfléchissent. Alors, que pensez-vous au niveau de l'empathie, des cours d'empathie ? Allez au hasard.
Toute façon, on ferait une petite heure de morale comme on avait nous quand on était jeunes, même au collège. Bah, ça suffirait largement pour faire comprendre à certains qui sont hors clous, c'est tout.
Donc des cours d'empathie, de morale, il faudra en faire dès la maternelle, c'est ça ?
Bien sûr.
Mm-hmm. Oui, puis comme toujours, pas ressentir que tout repose sur les épaules des profs.
Oui.
Donc peut-être de temps en temps mettre des institutions, des structures neutres, indépendante, neutre et extérieure qui viendrait de temps en temps.
C'est
aussi.
Des trucs extérieurs qui rentreraient à l'intérieur. C'est pas
oui,
évident.
Mais ça permettrait d'avoir une vue neutre et puis d'avoir plus de dialogue peut-être avec les élèves par rapport à un professeur qui, lui, est tout le temps dans la classe et ça serait peut-être une autre note.
Parce que de toute façon, tout commence dans la jeunesse, hein, que ce soit en CP et tout, les réflexions des parents, etc., que les enfants entendent. Si à l'école, on commence à leur parler morale en leur disant ceci, c'est pas bien, c'est ça. Et quand ils reviendront à la maison, ils en parleront automatiquement. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, mais à quel âge est-ce qu'on doit commencer, quoi ?
Et de toute façon, il y a déjà des cours, alors je ne sais plus si c'est le même sigle aujourd'hui, des cours de MC, éducation morale et civique, qui sont déjà inculqués, je crois, dès le collège.
Le collège.
Et qu'on a aussi au lycée. Par contre, le problème, c'est de mettre ça, déjà, bon, c'est régi par des programmes, faits par...
Qui ne sont pas terribles.
Et forcément réalisés par des gens qui, ne sont pas forcément professeurs. c'est un premier problème. Et le second problème, c'est que si on structure ça dans une heure de cours, les élèves vont voir ça ça comme une matière comme une autre.
Oui, il faudrait faire des petites demi-heures parce que de toute façon même...
En fait, non, il faudrait l'incorporer à la structure éducative de base, enfin en tout cas à l'éducation nationale. Il faudrait que ce côté... Alors ça fait un peu grand mot, ça fait un peu bisounours de dire bienveillance, mais même pas en fait, il faudrait vraiment l'utiliser et le mettre au même niveau que le sérieux, que la ponctualité, que enfin voilà que cette valeur là de faire attention à l'autre et de ne pas enfin et voilà d'être empathique, d'être comment d'être bienveillant, de
du savoir vivre,
ouais tout à fait du ça devrait
mais ça vient aussi des parents aussi au départ peut-être.
Et on en revient toujours au problème que c'est difficile et puis parfois on dit les parents et quand il faut qu'il y en ait aussi. En tout cas des parents qui soient présents parce que évidemment
oui, alors, c'est facile de dire ça aussi mais je vais un petit peu défendre des parents mais souvent les enfants chez nous ils se tiennent bien, il y a l'éducation est là et puis le fait d'être en groupe avec des copains ça dégénère souvent. Il y a ça aussi. Voilà, il y a deux facettes hein, voilà hein, c'est comme nous quand on est chez nous on vit comme ça et quand on est dans la vie professionnelle, on se comporte autrement. Il y a deux aspects hein, l'être humain est ainsi fait hein.
Oui, il y a plein, mais ça marche aussi dans l'autre sens. On a des enfants qui sont hyper contents de venir à l'école.
Oui, bien
parce
sûr.
Parce que à la maison, malheureusement, il y a un zéro suivi qui est fait par manque de moyens humains aussi du côté famille. Et je voulais revenir simplement sur le côté, Jackie, tu disais que les chiffres avaient augmenté. Est-ce que les chiffres ont augmenté ou est-ce qu'on vraiment, on commence vraiment à s'intéresser à ce qui se passe aussi ?
C'est surtout qu'on s'est aperçu qu'il y avait ce type de choses qui étaient arrivées. Donc on a mis souvent depuis quelques années ça de côté en disant bon, ça va passer. Hein. Et puis en fin de compte, on voit très bien que ça ne passe pas. Au contraire, ça augmente de plus en plus et notamment avec tous les réseaux sociaux et les nouvelles technologies qui vont arriver.
Tout à fait. Alors là, on va écouter un autre extrait. Hein. On recherche comment sensibiliser les jeunes sur le comportement de groupe, développer leur capacité d'écoute pour mieux communiquer. Alors, il suffit que j'augmente le son. Et voilà.
Des cours de sociologie, en fin de compte, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, déjà, connaître les évolutions des relations humaines, par exemple, de la manière dont nous interagissons avec les autres, soit avec nos amis, nos voisins, nos parents, nos professeurs. Est-ce que des cours, parce qu'on parle beaucoup d'empathie, qu'on parle d'empathie pour les élèves peut-être qui sont en primaire, les collégiens, mais arriver au lycée, est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement d'avoir quelques cours de sociologie pour essayer d'avoir de bonnes conduites et du respect vis-à-vis des autres ? L'une ou l'autre ?
Moi, je trouve que... je trouve que ça serait plutôt une bonne idée, mais il faudrait mettre ce dispositif, ces cours en place dès la petite enfance, donc vers bien évidemment le niveau serait pas le même, mais oui, des cours d'empathie, je trouve que ça serait une bonne idée pour permettre à l'enfant de comprendre ce que un autre peut ressentir vis-à-vis d'une remarque, des mots, des actes.
Oui, oui, oui.
Je trouve que ça serait une bonne idée.
Oui, oui, l'empathie. D'ailleurs, il y a le ministre de l'Éducation nationale qui en parle, hein, de mettre des cours d'empathie. Mais franchement, pour vous, au niveau... Alors peut-être à partir de la quatrième, hein, faire quelques petits cours de sociologie pour essayer de justement travailler le comportement de groupe aussi pour améliorer les relations. Peut-être développer la capacité d'écoute ou mieux communiquer. Claire, la maman, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, déjà, j'ai envie de dire que ça passe encore par l'éducation à la maison. Ce n'est pas toujours à l'école. Ce n'est pas parce que les choses se passent à l'école que c'est encore aux professeurs de le faire, parce que ça passe par l'éducation à la maison. Et que déjà, l'empathie, c'est quelque chose d'inné, mais au moins expliquer que il faut arrêter d'être individualiste et que quand on voit quelque chose se passer dans l'enceinte de l'école, du lycée ou même dans la rue, il faut apprendre à intervenir et ne pas, comme l'a dit tout à l'heure Julie, on sait qui prévenir. Je pense qu'arrivé au lycée, on est déjà capable... d'aller s'interposer, surtout si on est plusieurs, et de dire ce que tu es en train de faire, c'est mal, et nous on défend le plus faible. si on reste dans une politique comme ça, arriver au lycée, c'est-à-dire qu'on arrive à l'âge adulte quand même, et de dire « Ah, ben, j'y vais chercher un tel pour qu'il vienne aider le plus faible ben, », je trouve ça dommage parce que ça veut dire qu'arriver à l'âge adulte, quand il va se passer quelque chose dans la rue ou même sur le lieu de travail, ils ne seront pas capables d'interagir eux-mêmes.
Oui, alors c'est vrai que ce que tu dis, ça me fait rappeler des choses que me disaient effectivement certains professeurs. On le voit même au lycée, ce qui est un petit peu dommage, comme les collégiens. Hein. Il y a une bagarre ou il y a quoi que ce soit, ils filment. Maintenant, c'est ça. On filme et on met tout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai qu'il faudrait développer la capacité d'écoute et de mieux communiquer ensemble. Et effectivement, je pense que c'est le rôle et des parents, quelque part, et des professeurs. J'ai posé toutes mes questions, vous avez répondu à tout ce que je voulais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en plus sur ce thème, harcèlement et phobie scolaire? Parce qu'effectivement, souvent, quand on est harcelé, la phobie scolaire arrive par la suite. Est-ce que vous avez des idées qui pourraient améliorer les choses ou pas du tout? Moi, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas laisser faire les moqueries. Ça peut aller même très, très loin. Et pour un enfant qui est fragile, c'est
quand même... Mais il faut plus un esprit de groupe, déjà, que les autres qui trouvent pas ça normal, ce qui se passe, et l'intelligence et l'empathie d'aller défendre l'autre. Je pense que, et ça fait partie du non-individualisme, et c'est quelque chose qui, malheureusement, dans notre société actuelle, n'existe pas, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'aller chercher l'adulte et apprendre justement à l'enfant, à l'adolescent, de se défendre lui-même, parce que plus tard, il n'y aura plus d'adulte, parce qu'il sera lui-même un adulte, et qu'il aura besoin de savoir se défendre et de défendre les autres aussi, et que c'est comme ça aussi qu'on forge son caractère. On est en train d'infantiliser les adolescents, c'est-à-dire qu'on estime qu'ils ne sont pas capables de se défendre par eux-mêmes, et donc on leur dit faut aller dire à un tel, faut aller dire à machin, sauf que c'est pas forcément la bonne solution, parce que il y a rien de mieux que de se défendre par des gens du même âge, du même groupe, qui vont savoir dire stop au harceleur parce qu'ils vivent la même chose, ou parce que justement ils savent ce que ressentent le harcelé. Donc je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais je pense qu'on s'y prend pas de la bonne façon.
D'accord, ça me fait rappeler que la professeure que j'ai eue en ligne me disait qu'elle, elle leur demande déjà de régler le problème par eux-mêmes, et après, elle intervient si vraiment, ça ne s'arrange pas du tout. Julie, tu voulais donner un petit mot de fin, notamment, est-ce que tu trouves que les jeunes sont très individualistes, comme le disait ta mère?
Alors, je ne pourrais pas parler pour toute une génération, mais je trouve que c'est vrai que avec l'arrivée des nouvelles technologies, on devient de plus en plus du coup individualiste, et on ne comprend pas ce que l'autre peut ressentir, ou alors on va pas chercher ce contact humain.
Vous l'ignorez surtout.
Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent, et même quand on en parle, les gens continuent à complètement ignorer, en fait, juste continue. Donc il faut juste apprendre à écouter et apprendre à faire attention à l'autre, comme on pourrait prendre soin de soi-même.
Eh bien, c'est très bien, ce sera le mot de la fin.
Voilà, donc on quitte Julie, 16 ans, et donc sa maman Claire. Il y a une question que Claire pose sur l'individualisme des jeunes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jackie? Tu trouves que les jeunes sont de plus en plus individuels, qui ne s'occupent pas des autres? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, pas comme dans toute la société, de plus en plus, on a la notion d'individualisme. Mais je crois que aussi, il y a aussi là de plus en plus, enfin, ce qu'il faudrait peut-être faire au niveau scolaire, c'est de plus en plus travailler sur la notion de groupe. Moi, je le vois dans les écoles où on est, on n'a pas tendance à travailler par groupe. Et peut-être qu'en accentuant cette notion de groupe régulièrement en travaillant sur des ateliers et autres, peut-être il y aurait plus la notion de travail, de vivre ensemble et de travailler ensemble.
On avait fait une émission là-dessus sur l'aide entre pairs, entre voilà. Les élèves. Ça manque énormément.
Mais nous, on le voit dans les activités, ce qu'on fait au potager, au jardin. On travaille oui. avec par groupe. Et moi, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Donc, il y aurait peut-être un travail à faire là-dessus.
Et puis, le fait de travailler en groupe, ça leur permet aussi de s'écouter. Et ça, c'est très intéressant, de ne pas se couper la parole, etc. Et je trouve que ça, c'est bien aussi.
Il y a le comportement par rapport à ça, il y a le comportement de la classe, parce que chacun peut aussi... puis, il y a la notion aussi de plus en plus...
Peut-être mieux de se connaître aussi.
Mieux se connaître, oui. Et là, il y aurait peut-être, en travaillant par groupe, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a l'appréhension de prendre la parole. Bah, en travaillant par groupe, le groupe aurait plus, les gens à l'intérieur du groupe auraient plus peut-être de facilité de prendre la parole.
Oui, ça c'est vrai. Alors, avec les nouvelles technologies, nos relations à l'autre donc ont changé. On peut communiquer à l'autre bout du monde, mais la dépendance aux écrans, aux jeux vidéo, peuvent-ils rendre les relations humaines insociables et engendrer plus de violence? Des jeunes qui ne sont plus aussi en adéquation avec la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles technologies au niveau Laurence, est-ce que tu trouves que ça rend le monde plus violent puisque les relations se font par écran?
Alors, c'est vrai que ça peut rendre plus violent parce qu'on est protégé, on est anonyme, les jeux vidéo, tout ce qui est virtuel, est beaucoup mis en exergue dans notre problématique de phobie scolaire en général. Et en fait, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir un côté positif pour l'enfant. Il se retrouve dans ce milieu qui finalement, il n'y a pas l'être humain, les interactions, c'est une sorte de refuge, quoi. Donc, ça n'a pas que des mauvais côtés.
Ça peut être un refuge, mais aussi le fait d'être toujours sur les jeux vidéo, ça enlève peut-être quelque chose au niveau de la réalité du monde qui l'entoure. Aussi,
il peut y avoir les deux choses, il peut y avoir le côté positif et négatif, parce que l'enfant peut rester dans sa bulle après. Donc ça, il faut faire aussi attention à ce côté-là. Et puis c'est aussi le côté négatif, que le message de harcèlement peut se propager à une vitesse pas possible.
Oui, par les écrans.
C'est par exemple ce qui est bien décrit dans le film et dans le livre, Marion, on a main tendue, parce que c'est ce qui s'est passé.
Oui,
c'était une personne apparemment qui n'était pas plus timide ni renfermée que ça, mais qui s'est retrouvée dans un cercle vicieux. De gens qui justement, eux, peut-être avaient besoin de...
Parce qu'on voit que maintenant, sans les nouvelles technologies, enfin avant avec les anciennes technologies, enfin les anciennes technologies, les anciens outils, c'était beaucoup plus local. Maintenant, on voit qu'avec les nouvelles technologies, ça se propage et ça peut avoir un effet boomerang énorme.
Des fois, on peut se faire harceler par quelqu'un qu'on n'a jamais vu et qu'on verra jamais.
D'accord. On me fait signe qu'il reste 10 minutes. Moi, je voulais savoir un petit peu, ton association anime donc des conférences, crée des webinaires aussi, j'ai vu. Et votre prochaine conférence aura lieu à quelle date et sur quel thème? Parce que j'ai vu que tu faisais aussi, que vous faisiez aussi des conférences.
Là, j'aurais du mal à donner une date, mais il y en a une. Il y a les conférences nationales. Donc la dernière avait eu lieu en décembre de l'année dernière, 2022, à Strasbourg lors de l'Assemblée générale.
Le thème, c'était quoi exactement? Tu t'en souviens? Non, sinon, c'est pas grave.
C'était toujours un peu la même chose.
La même chose, phobie scolaire. Ouais. D'accord.
Il y avait Alexandre Ployer, Hélène Denis et des psychologues.
Donc, psychologue.
Oui, il aurait fallu que je me prépare. Et,
c'est pas grave.
Et
la prochaine donc,
la prochaine est à Bordeaux.
Est à Bordeaux.
Pour l'année prochaine. Peut-être au moment de l'Assemblée Générale, parce que l'Assemblée Générale n'aura pas lieu à Bordeaux. C'est une année sur deux à Paris et en province.
D'accord. Donc à Bordeaux.
Et donc nous en avons fait une pour se rapprocher d'ici à Reims en mai 2022.
À Reims, d'accord. Toujours à le thème, d'accord. Sur vos webinaires, comment les parents... est-ce que les parents peuvent-ils intervenir? C'est-à-dire que je voudrais savoir, au niveau harcèlement ou phobie scolaire, tu as des parents qui te joignent directement au téléphone. Quels sont leurs premiers sujets qu'ils mettent en avant quand ils vous appellent? Tu m'as dit que tu avais notamment peut-être eu des gens en ligne très récemment. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement?
Souvent, ils disent mon fils ou ma fille ne peut plus aller à l'école depuis une semaine. Je veux absolument qu'elle y retourne parce qu'elle va perdre. Ça va être dramatique. Donc, c'est ça leur première demande. Et nous, malheureusement, on doit leur laisser entendre que ça se résout pas d'un
claquement de doigts.
C'est plus la notion de retour à l'école rapide que de compréhension de ce que le jeune a.
C'est comme ça que je l'analyse, mais peut-être que je me trompe, mais oui. Et puis, tout à l'heure, on en parlait, là, on disait chacun se renvoie la balle entre l'éducation, enfin, les enseignants, l'éducation nationale et les parents. Je crois que ce genre de problème, souvent, c'est un handicap. Moi, j'appelle ça un handicap invisible. Parce que vous êtes dans un fauteuil roulant, moi c'est ce que je dis souvent aux parents, si votre enfant était dans un fauteuil roulant, vous ne lui diriez pas « allez, lève-toi, fais un effort ». Alors que ce handicap-là, ne peut pas y arriver, c'est quelque chose d'incompris qui fait que chacun se dit « oh là là, il ne faudrait pas que ça soit de ma faute », donc on élude et on essaye de résoudre le problème comme ça, en poussant quoi.
Mais souvent, ce ne sont pas les parents qui se rendent compte que l'enfant va mal, ce n'est pas non plus le professeur, ce sont vraiment des gens extérieurs, le médecin ou quelqu'un de la famille qui se rend compte que l'enfant est mal. Ça arrive fréquemment. Ça arrive très, très, très fréquemment. Moi, je voulais aussi te poser la question, mais... là, il y avait une. Alors, j'avais pas eu la personne en ligne, c'est dommage. Il y avait une maman que je voulais interviewer, oui. Effectivement. Et donc, je n'ai pas pu l'interviewer. Elle était à la recherche de quoi, cette maman? Parce que tu l'avais eue, toi, en ligne. Elle devait venir et elle n'a pas pu venir. C'est quoi le problème? C'est vraiment une phobie scolaire suite à un harcèlement? Ou c'est autre chose? Parce que je pense que la phobie scolaire, il faut en parler, ça ne vient pas non plus que du harcèlement. Quels sont les autres symptômes? Ça peut venir de quoi? Du mal-être de l'enfant? Des émotions qu'il n'arrive pas à gérer?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est chacun a sa cause, quoi. On parle de harcèlement ou on parle de phobie scolaire en général? Parce que là, la maman dont j'avais parlé et qui devait peut-être venir a deux enfants. Il y en a une, deux filles. Il y en a une qui a fait l'objet de harcèlement et l'autre non. Et a priori, elles sont... parce que nous, on préconise des bilans, etc. Et parfois...
Des bilans...
Toutes sortes de bilans, justement, pour voir s'il n'y a pas de dyslexie, pour voir s'il n'y a pas d'autisme. Il y a souvent de l'autisme. Voilà. Et après, bah, ça fait une différence et ça fait qu'on est stigmatisé parce que, par exemple, on a des TOC et on est moqué. Et le harcèlement peut venir après. Enfin... On ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence du problème.
Alors, c'est pareil, les bilans. La semaine dernière, on a fait une émission, c'est pareil, avec l'association 10. Et les bilans, c'est très compliqué. Ça coûte très cher pour les parents. La plupart des bilans ne sont pas pris en charge. Donc, dans ce cas-là, est-ce que vous avez des aides, vous, à ce niveau-là, ou des noms? Parce que pour faire un bilan aussi, souvent, pour avoir un rendez-vous chez un ergothérapeute ou un... un psychiatre, c'est très compliqué. Est-ce que vous avez des noms dans ce cas-là à leur fournir?
On essaye de se faire un réseau, justement, grâce à notre groupe Facebook qui rassemble 12 000 familles. Et moi, j'ai des groupes Messenger, comme d'autres dans d'autres régions. Et donc, on essaye de... À chaque personne qui nous dit « j'ai vu un pédopsychiatre », là, par exemple, la dernière personne qui m'a contactée, elle dit « ma fille est déjà suivie par un pédopsychiatre ». Et ben dans ce cas-là, je lui dis « est-ce que vous pouvez me donner son nom ?» Mais des pédopsychiatres, c'est une denrée rare. Hein.
Oui.
Moi, je suis dans l'Aisne, alors là, pédopsychiatre, oui. Je ne connais pas.
C'est le gros souci. Hein. Effectivement, c'est ce que nous disait aussi l'association 10. J'ai le temps de poser une dernière question ou pas du tout? On me fait signe que oui. Alors, les compétences émotionnelles chez les enfants et les ados, comme gérer leur angoisse, développer leur empathie, seront-elles les seules ressources pour respecter les autres? Est-ce que ça va suffire, d'après vous? Grand silence.
Tout dépend. Bon, on voit ce qui se passe malheureusement chez les ados, dans l'école et autres, mais c'est peut-être aussi une prise de conscience de la société. La société a un mal-être et ce mal-être de la société, malheureusement, se transfère sur l'école, hein,
oui,
et sur les ados. Les ados,
voilà.
Et plus petits aussi.
On a beau fermer les portes,
donc,
ça rentre.
Hein. Il faudrait aussi peut-être que la société se remette en cause.
Donc il faudrait donner aussi des cours d'empathie peut-être à certains parents.
Aux adultes aussi.
Aux adultes.
C'est pour vrai. Qu'après ça redescende sur les enfants, enfin à tous les stades, parce que de toute façon les enfants, les ados regardent aussi ce que font les adultes.
Hein. C'est vrai, ils nous
imitent. C'est un copier-coller.
Tout à fait.
Faut aussi que nous adultes on fasse
des efforts.
On fasse des efforts à ce niveau-là, quoi.
Voilà, je crois que ça va être le... vas-y,
Je voulais juste dire, c'est politiquement incorrect, mais il existe aussi le harcèlement par les enseignants.
Ah ben, il faut que tout le monde se prenne en...
Donc,
comment dire,
en main. Oui.
Fasse une réflexion sur soi-même, et puis voilà.
Tout à fait. Voilà, on va y réfléchir, tous ensemble. Voilà, c'est la fin.
C'est bon, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement nos invités. Cette émission Pédago Rondo sera diffusée pendant le mois de janvier, le vendredi 5 janvier à 19h, le lundi 8 janvier à 16h30, le samedi 20 janvier à 17h et le mercredi 24 janvier à 2h du matin. Au revoir, merci à Luc à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et donnez donc votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6-valois-6-mulsien.fr. Au revoir.
Au revoir.
Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué? Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé? Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste...